Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue, merci de votre fidélité à VO Afrique. Au micro, Salwa Jafari et Nicolas Pinault, à la une de notre émission ce soir.
Tension persistante au Burundi, une nouvelle victime parmi les manifestants anti-Nkurunziza est tombée aujourd'hui.
Washington contre l'idée d'un troisième mandat de Paul Kagame au Rwanda.
Recensement électoral en cours au Niger.
Je viens d'être censé, j'ai l'impression d'être le premier. Et je suis très content, vraiment c'est un recensement qui a l'air de bien démarrer et je souhaite vraiment à l'équipe une bonne suite.
Et puis nous parlerons de la journée mondiale de l'environnement, fin de journal. Nous irons pour cela au Mali et au Gabon.
Nous avons des paysages qui sont non seulement riches, mais diversifiés. Nous avons un environnement vraiment à sauvegarder.
Et comme tous les soirs, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco, le journal des sports, le Ghana qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal. On commence par cette information de dernière minute. Washington qui est contre l'idée d'un troisième mandat pour Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Dans un communiqué, Rodney Ford, le porte-parole du Bureau des Affaires africaines au département d'État, rappelle l'attachement de Washington au respect des constitutions. Dans le texte, le département d'État explique que changer les constitutions pour éliminer le terme des mandats pour que les présidents en poste puissent se maintenir au pouvoir est inconsistant avec les principes démocratiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Situation toujours tendue au Burundi, nouvelle journée de manifestation. Un manifestant est tombé sous les balles de la police ce vendredi dans le quartier de Moussaga, dans la capitale Bujumbura. Les détails avec Issiakaba.
Selon des témoins, plusieurs centaines de personnes ont tenté de se regrouper dans ce quartier considéré comme l'un des foyers de la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La victime a été tuée par une balle tirée par la police. Il est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. Après plus d'un mois de manifestations quasi quotidiennes, émaillées de violence, la police burundaise est parvenue depuis mercredi à étouffer quasiment tout regroupement de protestation dans les quartiers de Bujumbura. Sur le plan politique, la question de la légitimité du troisième mandat est derrière nous, affirme à VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller de la présidence. Pourtant, hier encore, c'est Kofi Annan qui s'est fait entendre. L'ancien secrétaire général de l'ONU a demandé au président burundais de renoncer à son projet. L'opposition, de son côté, a rejeté hier Saïdi Djinit comme médiateur dans cette crise. Le représentant du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs est jugé trop conciliant sur la question du troisième mandat. En attendant, les Burundais attendent toujours de connaître le nouveau calendrier électoral. Un report des élections jusqu'à mi-juillet devrait être entériné conformément aux recommandations des chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Dar es Salaam.
Par ailleurs, l'ONU appelle au désarmement rapide des groupes de jeunes affiliés aux partis politiques au Burundi, surtout les Imbonerakure du parti au pouvoir. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a en outre invité les Burundais à la retenue et à porter son soutien à une proposition de l'Union africaine d'envoyer des observateurs pour veiller au respect des droits de l'homme.
On part au Ghana. Le bilan revu à la hausse de l'explosion de mercredi soir dans une station-service. La catastrophe a fait plus de 150 morts dans le centre d'Accra. C'est ce lundi que débutent 3 jours de deuil national dans le pays. Ce vendredi, le président John Dramani Mahama s'est rendu sur place en compagnie de son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Les deux chefs d'État ont visité la scène du drame et un hôpital.
Aux discussions d'Alger sous l'égide de l'ONU, les rebelles, la dominante Touareg du Mali, ont convenu de signer le 20 juin à Bamako l'accord de paix et de réconciliation avec le gouvernement malien. C'est ce qu'a annoncé le leader du groupe Bilal Aga Sharif. Les précisions de Lionel Gaïma.
Nous signerons l'accord de paix le 20 juin, a assuré Bilal Ag Asherif aujourd'hui à Alger. En attendant, l'émissaire de l'ONU, Mongi Hamdi, a fait savoir de son côté que les deux parties étaient parvenues à un accord de cessez-le-feu dans la ville septentrionale de Menaka, avec le retrait de groupes armés pro-Bamako de la zone pour être remplacés temporairement par les troupes onusiennes. Un deuxième texte politique traite de certaines demandes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous signons 2 textes aujourd'hui, un sur la sécurité, un sur la politique, qui permettront à la coordination d'aller de l'avant et de signer l'accord final, je l'espère, le 20 juin à Bamako, a déclaré à Reuters Mongi Hamdi avant une cérémonie de signature à Alger. Des groupes armés pro-gouvernementaux ont repris Menaka aux séparatistes en avril dernier, lors de violents combats qui ont compliqué les efforts internationaux pour obtenir un accord de paix final. Le gouvernement malien a accepté un accord sous l'égide de l'ONU en mars dernier, mais la coalition rebelle a retardé une signature définitive.
Scène de chaos à Pointe-Noire et Brazzaville où des milliers de lycéens ont provoqué d'importants dégâts dans la capitale congolaise. Les manifestants sont en colère après l'annulation des épreuves du baccalauréat pour fraude massive selon le gouvernement. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Elo Matsan Mampouya, a annoncé à la presse qu'une nouvelle date serait fixée ultérieurement pour ce baccalauréat.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'insurge contre les abus systématiques commis par les forces gouvernementales et les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Zeid Raad al-Hussein a appelé le gouvernement du nouveau président, Muhammadu Buhari, à engager des poursuites contre les auteurs de ces exactions. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les civils fuyant les violences ou qui ont été secourus dans des villes occupées par Boko Haram dépeignent une situation de terreur absolue et de graves violations des droits humains, a dit le patron du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Selon Zeid Raad al-Hussein, les survivants font aussi état de violations du droit humanitaire international par les forces de sécurité. Parmi les exactions de Boko Haram qu'il a citées, des meurtres gratuits, des exécutions sommaires, des participations forcées à des opérations militaires, y compris l'emploi d'enfants pour faire exploser des bombes, les mariages forcés et les violences sexuelles, y compris le viol. Le responsable onusien des droits de l'homme a exhorté la nouvelle administration du président Muhammadu Buhari à prendre des mesures urgentes pour traduire les coupables en justice, qu'ils appartiennent à Boko Haram ou à l'armée, a-t-il précisé. Tout en reconnaissant l'immense défi auquel fait face le gouvernement nigérian dans sa lutte contre Boko Haram, Zeid Raad al-Hussein a souligné la nécessité absolue pour les forces de sécurité de respecter les règles de l'état de droit.
Et puis toujours le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'est inquiété qu'aucune enquête n'ait été lancée au sujet des soldats congolais soupçonnés d'avoir fait disparaître 11 civils en République centrafricaine, c'était il y a 15 mois.
Au Nigeria, le double attentat suicidaire dans un marché bondé de Yola a fait 31 morts et 38 blessés. C'est le nouveau bilan donné par le porte-parole de la police locale.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à l'État burkinabé de reprendre l'enquête sur les meurtres en 1998 du journaliste Norbert Zongo et des trois personnes qui l'accompagnaient. Les juges ont également ordonné à l'État burkinabé de verser 25 millions de francs CFA à chacun des conjoints, 15 millions à chacun des enfants et 10 millions à chacun des mères et pères de Richard Zongo et de ses compagnons.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, cette nouvelle qui vient de tomber en Turquie, 2 morts, plus de 100 blessés lors d'une explosion à un meeting du Parti kurde. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochaines éditions.
Et puis le dialogue politique entre les partis en conflit en Libye va reprendre ce lundi au Maroc. C'est ce qu'annonce l'ONU au lendemain du rencontre à Alger entre des responsables libyens qui ont appelé à la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale. L'ONU qui tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation de ce gouvernement d'union nationale.
Une lueur au bout du tunnel. La rébellion chiite au Yémen a accepté aujourd'hui de participer à ces pourparlers avec le gouvernement à Genève, initié par l'ONU, pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage ce pays de la péninsule arabe.
Et puis aux États-Unis, l'Office of Personnel Management, qui gère les effectifs du gouvernement fédéral, a indiqué que les données personnelles d'environ 4 millions de fonctionnaires actuels et anciens auraient été compromises. Camille Grosdidier.
Cette cyber-intrusion aurait été fomentée en décembre par des pirates informatiques chinois, peut-être liés au gouvernement au pouvoir à Beijing, a expliqué l'OPM. Hong Lei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi avec virulence vendredi, fustigeant des accusations irresponsables. De telles attaques sont en général anonymes et il est difficile d'en déterminer les origines, a-t-il poursuivi. À Washington même, un porte-parole de l'ambassade de Chine, Zhu Haikan, a souligné que la Chine a interdit le piratage informatique. Tirer des conclusions hâtives et lancer des accusations sur la base d'hypothèses sont irresponsables et contre-productifs, a-t-il déclaré dans un communiqué. OPM précise avoir détecté les pirates en avril. Le FBI, la police fédérale et le département de la sécurité intérieure ont lancé une enquête.
Parlons à présent de ces chiffres dévoilés par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Voici ce qu'il en ressort. Le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe. 23,3% des Européens adultes déclarent en consommer. La cocaïne vient en deuxième position avec 4,6% des adultes qui en ont pris.
Les services d'ambulance anglais ont découvert 62 personnes enfermées dans un conteneur dans le port Harwick. Et hier soir, 7 personnes ont été hospitalisées, dont 2 femmes enceintes. Les 61 autres ont été remises au service d'immigration. Les hommes et les femmes retrouvés enfermés sont de nationalités différentes, en provenance des Pays-Bas. Ainsi s'achève ce journal sur VOA Afrique. C'est l'heure de la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international recommande aux autorités de Kinshasa d'exploiter le vaste potentiel fiscal de la République démocratique du Congo afin de dégager des marges budgétaires à l'approche d'élections coûteuses. Pour le FMI, cela permettrait d'augmenter les dépenses publiques dans les secteurs prioritaires, en particulier l'éducation, la santé et les infrastructures de base, tout en contribuant au financement des élections. Le coût de tous les prochains scrutins a été chiffré à 1,1 milliard de dollars, alors que le budget de l'État s'élève à 9 milliards de dollars pour 2015, rapporte l'AFP. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank, déjà majoritaire dans la société ivoirienne de banque, a encore renforcé son contrôle. L'État ivoirien lui a cédé la quasi-totalité de sa participation dans la 4e banque de Côte d'Ivoire. L'accord a été signé à Abidjan entre la ministre ivoirienne de l'économie, Niale Kaba, et le président de ce groupe marocain, Mohamed El Ketani, en présence du roi du Maroc, Mohamed VI, et du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le cacao s'est stabilisé après avoir fortement grimpé récemment en raison de craintes sur l'offre ghanéenne. Les cours avaient atteint la semaine dernière à Londres un plus haut en 4 ans. Les inquiétudes sur l'offre du Ghana, le deuxième plus gros producteur de fèves brunes au monde derrière la Côte d'Ivoire, ont continué de soutenir les cours. L'AFP indique que le Ghana s'attend à une production de moins de 750 000 tonnes cette saison et le chiffre final pourrait être encore plus bas car les conditions météorologiques ne s'améliorent que lentement.
C'était la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide. Place à présent dans cette émission au sport. Et nous accueillons pour en parler Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nico.
On parle football, Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est en Nouvelle-Zélande.
Précieuse victoire du Ghana 1-0 face au Panama. Les Black Satellites terminent premier de leur groupe. La sensation de la journée, c'est bien évidemment l'élimination de l'Argentine, pourtant sextuple vainqueur de l'épreuve. En concédant le nul 0-0 face à l'Autriche à Wellington et étant donné la victoire 5-1 de la Nouvelle-Zélande sur Myanmar, l'Albi Célesté n'a plus aucune chance d'être présente en huitième de finale. L'Autriche et l'Ukraine sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Les Ukrainiens battent sèchement les Américains 3-0. À suivre la nuit prochaine, le Sénégal qui doit à tout prix battre le Ghana, le Mali face à l'Uruguay, Serbie-Mexique et Colombie-Portugal.
Sur le continent africain, la Coupe de la Confédération.
Et oui, Nico, le verdict tombera ce week-end pour la composition des poules de la Coupe de la Confédération. Les Orlando Pirates, l'Espérance de Tunis et l'AC Léopard y sont presque, alors que le suspense demeure entre V-Club et le Stade malien, le Club africain et Al Ahly, ou l'Étoile du Sahel et le Raja.
Et la grande finale en Europe, la Champions League, ce sera ce samedi à Berlin.
Avec le choc FC Barcelone-Juventus de Turin face au club espagnol et son attaque de feu, les Italiens devront surtout se soucier de leur phase offensive. C'est ce qu'a estimé ce soir l'entraîneur Massimiliano Allegri à la veille de ce match.
Un mot de tennis, le tournoi de Roland-Garros.
Eh bien, Stan Wawrinka a fait s'envoler le rêve du Français Joe Wilfried Tsonga de disputer une finale devant son public. Le Suisse s'est imposé 1-4-7, 6-3, 6-7, 7-6 et 6-4 dans des conditions rendues éprouvantes par la forte chaleur. Demain, la finale dames opposera la Tchèque Lucie Safarova à la numéro 1 mondiale Serena Williams. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte en ce moment Andy Murray.
Et enfin, Timothée, le premier match de la finale NBA, le championnat de basket nord-américain, c'était hier soir.
Cleveland s'est incliné face aux Golden State Warriors 100 à 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission.
Nous vous le disions en début de journal, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement, l'occasion de se remettre en question, de trouver des solutions à des problèmes qui menacent notre planète. Au Mali, il y en a deux principalement, les sachets plastiques qui maculent le pays et le traitement des eaux usées. Le reportage de Kassim Traoré.
Dans le cadre de la protection de l'environnement, rares sont les documents, chartes et conventions que le Mali n'a pas adoptées. Mais leur mise en œuvre pose toujours problème. L'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement malien, voulait installer des stations d'épuration d'eau usée à l'Indaou du bureau multi-pays de l'UNESCO au Mali.
C'est de pouvoir faire en sorte que les populations puissent bénéficier d'une eau plus traitée. Notre rôle, c'est de faciliter, d'identifier les besoins, d'identifier des partenaires également qui sont intéressés et mettre en place des mécanismes privé et public pour que les populations puissent en bénéficier. Notre rôle également est de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme volet transformation sociale soit un des clés de l'UNESCO pour que nous puissions quand même prouver notre bonne foi et notre engagement auprès des États membres de l'UNESCO.
En plus de l'installation des stations d'épuration d'eau usée, une étude avait été financée par la BAD en 2010 pour faire le curage des caniveaux de la capitale malienne. Mais de nos jours, l'insalubrité a gagné du terrain partout.
Par rapport à la mise en eau de deux ou trois stations d'épuration, il s'agit de la station d'épuration de Sotiba. Et ensuite, il y a la station d'épuration des eaux usées domestiques à Mopti. Et ensuite, il y a la station du Pongé. Le curage des collecteurs, l'aménagement des collecteurs. Et ce schéma, dans sa mise en œuvre, va prendre en charge toutes les eaux usées de Bamako. L'étude a été financée par la BAC.
Au Mali, on met tout dans les sachets plastiques. Il a même remplacé les paniers de la ménagère, car les femmes utilisent des sachets comme emballage. Mais son usage a des conséquences immenses pour l'environnement et les animaux.
Peut-être à beaucoup, les gens ne mesurent pas l'ampleur du phénomène, mais allez-y à l'intérieur, vous vous rendez compte que les espaces cultivables sont complètement envahis et que chaque année c'est des milliers de pâturages de moutons, de bœufs qui emmerdent de la consommation de ce plastique pour des paysans qui n'ont pas d'autres revenus que leur terre et leur bétail.
Il y a des mendiants, il y a des jeunes mendiants aujourd'hui quand ils arrivent dans des carrefours, des ronds-points dans le marché, il y a des jeunes qui ne vivent que de vendre des sachets de 50 à 200 francs. C'est l'eau en sachet aujourd'hui qui est devenue l'eau potable le plus pratique et le plus facile à avoir aujourd'hui.
Et pourtant, avant la crise, l'Assemblée nationale a adopté une loi interdisant l'usage et la vente des sachets plastiques comme emballage. Mais cette loi, comme tant d'autres, n'ont pas été appliquées à cause de la crise de 2012 au nord du Mali, qui a eu pour conséquence le coup d'État de la même année. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Parlons maintenant d'un phénomène tout aussi néfaste, la déforestation. Au Gabon, 10 000 hectares de forêt sont réduits à néant chaque année. Ce saccage des ressources naturelles est souvent passé sous silence. Désiré Miko, un photographe gabonais, a choisi ce thème particulier pour sensibiliser ses compatriotes à l'importance des espaces verts. Jean Rovistavani.
Le Gabon est recouvert à trois quarts d'une dense forêt tropicale et d'une partie du bassin du Congo, le deuxième plus grand écosystème du monde. Mais la forêt dans ce pays d'Afrique centrale, comme partout ailleurs dans le monde, est menacée par l'abattage illégal des arbres et par la déforestation. Selon Mongabay, une organisation internationale de protection de l'environnement, le Gabon perd plus de 10 000 hectares de forêt par an à cause de l'abattage des forêts. Afin d'inverser la déforestation et protéger les forêts, Désiré Miko, un photographe professionnel, tente de sensibiliser les communautés sur l'importance de préserver les arbres du pays. Ses photographies sur les forêts de son pays ont fait l'objet d'une récente exposition.
Nous avons des paysages qui sont non seulement riches, mais diversifiés. le peu que j'ai parcouru et par rapport au travail que j'ai eu à effectuer, je me rends compte chaque jour que nous avons un environnement vraiment à sauvegarder. Donc je comprends pourquoi déjà au niveau des grandes nations, ils se retournent vers les pays comme le nôtre.
Au cœur de Libreville, une zone protégée dénommée Arboratum de Siban est utilisée comme modèle pour permettre à la population de découvrir les arbres et les différents écosystèmes qui existent. Étendu sur une superficie de 16 hectares, l'Arboratum de Siban abrite de nombreuses espèces d'arbres qui font l'objet d'études en cours. Mais même avec les efforts entrepris pour préserver Siban, les bûcherons illégaux trouvent toujours le moyen d'agir. Et pour les écologistes comme Nikes Molombi, le gouvernement doit encore fournir des efforts.
Le développement écotouristique est une bonne chose, mais il faut tenir compte aussi de la sensibilité de cet écosystème particulier qu'il y a dans cette zone. Il y a des oiseaux, il y a de la mangrove. Ça, c'est important.
Selon les chercheurs, jusqu'à 20% des espèces de plantes du Gabon n'existent nulle part au monde. Omer Ntungu est le directeur exécutif adjoint de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon.
La seule chance que nous avons de montrer à nos enfants, à vos enfants, à nos petits-enfants, c'est que la richesse que Dieu a donnée à ce pays, c'est de nous battre pour préserver cette nature-là. Et c'est un travail permanent, c'est un travail quotidien. Ce n'est pas un travail momentané ou temporaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qu'on arrête demain. Ça se produit de génération en génération.
Le Gabon a été le premier pays africain à dévoiler sa contribution nationale à la lutte contre le réchauffement climatique. Une initiative témoignant d'une réelle prise de conscience des enjeux environnementaux. Mais sur le terrain, les bonnes résolutions ne sont toujours pas suivies des faits. À Libreville, Jean-Rovis Dabani pour la VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Direction le Niger à présent, où les opérations de recensement en vue de l'établissement du fichier électoral pour les prochaines élections a débuté cette semaine pour collecter les données sur les Nigériens en âge de voter. Plus de 15 000 agents sont déployés dans tout le pays, mais aussi dans certaines ambassades à travers le monde. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a suivi deux équipes. Voici son reportage.
Pendant trois semaines, les équipes d'agents recenseurs vont faire le porte-à-porte pour enregistrer les données des citoyens en âge ou en droit de voter. Dans le premier arrondissement communal de Niamey, où se situe la résidence du chef de l'État, une équipe est passée là-bas à la satisfaction du premier des citoyens nigériens, Issoufou Mahamadou.
Le recensement est une phase importante dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. Nous souhaitons que les prochaines élections soient transparentes, libres, honnêtes et crédibles. Et une des bases, c'est le fichier électoral. C'est pour dire combien nous attachons de l'importance à cette première phase du processus, à cette phase de recensement. Je lance un appel à tous les Nigériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour qu'ils se fassent recenser. Et j'espère que tout ce processus va être conduit dans la transparence.
Un peu plus loin, dans le deuxième arrondissement communal au quartier Boukoutikat, ce père de famille est tout aussi réjoui après le passage de l'équipe d'agents recenseurs.
Alhaji Abdou Amay Nassara, habitant du quartier Boukoutikat, enseignant de formation. Je viens d'être recensé, j'ai l'impression d'être le premier et je suis très content. Vraiment, c'est un recensement qui a l'air de bien démarrer et je souhaite vraiment à l'équipe une bonne suite. Et que tout le peuple nigérien soit recensé pour que notre démocratie soit en avant. Parce que celui qui n'est pas recensé, il n'a pas accompli son devoir de citoyen. Ça veut dire qu'il ne va pas voter, ça veut dire qu'il n'aura pas de carte. Alors là, il a perdu sa citoyenneté au moment surtout des élections.
Il est prévu au cas où les équipes passent sans trouver dans les familles des citoyens en âge de voter un ratissage après l'opération, comme le rassure le responsable régional au niveau de Niamey.
Ça, c'est une organisation même que les agents recenseurs, lors de la formation, j'ai entendu cela. Quand ils constatent l'absence d'une personne, ils vont revenir encore pour constater sa présence la nuit. Je les ai entendus parler de vive voix, ça. Et dit, mais vraiment, ça nous encourage quand même de compter sur ces gens-là. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils ont l'intention, en tout cas, de ne oublier personne.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti. Le site d'investigation ProPublica et la radio publique américaine NPR ont accusé la Croix-Rouge des États-Unis qui a reçu un demi-milliard de dons après le tremblement de terre 2010 en Haïti de n'avoir construit que 6 maisons depuis dans ce pays. L'ONG dément pour une réaction. Idrissa Seydoudia a contacté à Port-au-Prince le pasteur Chavan Jeune, candidat à la présidence.
Ça nous a réellement paniqué, intrigué même.
On se demande est-ce que la Croix-Rouge américaine a exactement collecté un demi-milliard de dollars et a utilisé cet argent à du repaiement d'une dette qu'elle a contractée vis-à-vis de la Croix-Rouge internationale de 200 millions. En Haïti, on n'a pas bénéficié de ce fonds.
Alors, la Croix-Rouge se défend de ces accusations et dit « L'argent a permis de construire et faire fonctionner 8 hôpitaux et cliniques, juguler l'épidémie de choléra, apporter de l'eau propre et des installations sanitaires à la population et sortir 10 000 personnes détentes de fortune pour des habitations sûres. » Est-ce ce que vous avez constaté vous-même sur place?
Non, parce qu'on a parlé de Canaran et à mon humble avis, je ne connais pas l'hôpital qui a été construit par la Croix-Rouge, donc cela pourrait peut-être faire l'objet d'une enquête. Donc on n'a pas vu, on n'a pas remarqué des constructions qui auraient coûté, qui pourraient être évaluées à des millions de dollars.
Comment jugez-vous de façon générale l'action des organisations humanitaires chez vous depuis le tremblement de terre?
Les études qui ont été faites ont conclu que sur chaque dollar récolté par les organisations étrangères ou bien pour venir aider Haïti, il n'y a que 35 qui sont arrivés en Haïti. Par exemple, il y a une organisation qui a acheté plus de 5 000 Toyota juste pour visiter et faire une évaluation. Donc l'argent est dépensé dans des activités réellement qui n'ont rien à voir avec la situation des gens du pays.
Le pasteur Chavan Jeune, candidat à la présidence haïtienne, il était joint à Port-au-Prince.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace out.
Yeah.
Festival Le Monde aujourd'hui, la mise en onde était assurée par Michel Zozef et Nachwan Kale, Nicolas Pinot et Salwa Jafari à la présentation.
Et avant de se quitter, on va saluer Boura Ba qui est à Bamako et Kevin Bekin à Abidjan. Comme retrouvez-nous sur le www.voafrique.com ou sur notre page Facebook. On vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.